Chers auditeurs, bonsoir, Philippe Pichot-Bravard. C'est avec une très grande joie que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de ce libre journal en ce vendredi 19 juin 2026. Une émission qui a été préenregistrée et par conséquent, malheureusement, vous ne pourrez pas intervenir en direct. Le printemps qui s'achève fut marqué dans le domaine spirituel, domaine essentiel, de quelques beaux signes d'espérance. Ainsi, à Pâques dernier, 13 234 adultes et 8 152 adolescents ont reçu le baptême, chiffre en forte augmentation depuis quelques années. Ces nouveaux convertis sont issus de la France déchristianisée, au sein de laquelle, faute de transmission et d'enseignement catéchétique solide, la majorité de la population ne reçoit plus les sacrements. Ils témoignent de la vitalité de la foi catholique dans un monde contraire, régi par des institutions agressivement laïques qui s'échinent à faire disparaître toute transcendance. Parmi ces nouveaux convertis, plusieurs centaines de musulmans, dont il faut saluer le courage, qui ont pris le risque de rompre avec leur famille et de s'exposer aux représailles de membres de leur communauté d'origine pour suivre le Christ. Là est la seule voie du salut. À la Pentecôte, plus de 20 000 jeunes pèlerins de Notre-Dame de Chrétienté ont marché sur les pas de Péguy pour rejoindre sous un soleil accablant Notre-Dame de Chartres, où le lundi de Pentecôte, le cardinal Burke les attendait pour célébrer une messe magnifique. Au cœur de sa prédication, le cardinal Burke a rappelé que la vie chrétienne est un pèlerinage vers la patrie éternelle. Il a encouragé les fidèles à rester fermes au milieu de la tempête spirituelle que traversent le monde et l'Église elle-même. Le cardinal Burke a invité les fidèles à persévérer dans, je cite, le bon combat et à rester unis au Sacré-Cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie et au cœur très pur de Saint-Joseph. Nous ne cédons ni au découragement ni au désespoir. Le cardinal a alors invité les pèlerins à invoquer Saint-Joseph. Je cite, « Saint-Joseph est le protecteur de l'Église, le gardien de la sainte tradition, de la sainte doctrine, de la sainte liturgie et de la sainte discipline. » Au même moment, les pèlerins de tradition achevaient leur pèlerinage entre Chartres et Paris. Les deux pèlerinages avaient pour thème l'esprit missionnaire. Les prières et les sacrifices supportés auront été autant d'offrandes déposées au pied de la croix du Christ, afin que les Français se tournent à nouveau vers lui, réalisant que le Christ est la seule voie du salut, que le relèvement de la France passe par la reconnaissance du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, de son règne de justice et d'amour. En espérant que ces prières auront été assez puissantes pour nous épargner le dernier délire d'une Macronie à la dérive, la loi sur la fin de vie, qui ambitionne de permettre en France l'euthanasie et le suicide assisté, projet d'une redoutable perversité qui menace d'abîmer encore un peu plus, de diviser encore davantage ce qui reste de la société française. Sous prétexte de soulager des souffrances que des soins palliatifs et beaucoup d'attention, de délicatesse humaine permettraient d'apaiser, la loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie et le suicide assisté auront pour conséquences prévisibles et souvent avouées à demi-mot de tuer vieillards et grands malades, de sacrifier les plus fragiles à de sordides calculs financiers, de faire violence aux médecins et aux infirmières en les contraignant à accomplir des actes mortifères, contraires, meurtriers, contraires à leur vocation. C'est tout à fait indigne. Sur ce dossier délicat et épineux, pour complaire à la franc-maçonnerie devant laquelle il a pris cet engagement en novembre 2023, lors de sa visite, Emmanuel Macron, aidé de Yaël Braun-Pivet, impose au Parlement de délibérer dans la précipitation, à marche forcée, de manière indigne et déraisonnable. manifestant, ce faisant, son mépris pour une population dont il violente la conscience, pour une représentation nationale à laquelle il refuse le temps de la réflexion, pour des institutions dont il n'aura cessé depuis 2017 de fausser le fonctionnement en démantelant toutes les procédures de contrôle. Au milieu de nos tribulations, sollicitons l'intercession des saints et des saintes de France qui enrichirent et éclairèrent de leurs belles vertus notre longue histoire, et notamment parmi eux. Madame Élisabeth de France, dont l'enquête diocésaine de béatification a été close le 13 mai dernier à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie, va commencer désormais le procès romain. De même, l'abbé Michel Guérin, le curé de Pontmain de l'époque des apparitions, dont l'enquête diocésaine de béatification a été close mardi dernier à la maison diocésaine de Laval. Et puis, également, les saintes carmélites de Compiègne, récemment canonisées, auxquelles l'abbé Gérard de Servigny vient de consacrer un très bel ouvrage dont nous reparlerons cet automne. Nous pourrons aussi nous nourrir de l'exemple donné par un grand chrétien qui fut un grand résistant et un preux combattant, servant Dieu et la France la plume à la main, Michel de Saint-Pierre, qui a été rappelé à Dieu il y a ce soir, je me place le soir de la transmission de cette émission, ce soir 19 juin 1987, il y a donc 39 ans. Il y a donc 39 ans, Michel de Saint-Pierre, auquel Thierry Bouclier vient de consacrer une très belle biographie, Michel de Saint-Pierre, une biographie publiée aux éditions Via Romana. Et j'ai ce soir la joie et l'honneur de recevoir Thierry Bouclier, qui est avocat, écrivain, et qui a publié plusieurs ouvrages, notamment une biographie de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui est parue il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, et puis plusieurs biographies consacrées à des écrivains du milieu du XXe siècle, notamment Pierre Drieux La Rochelle ou encore Alphonse de Chateaubriand. Alors, Thierry Bouclier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez de publier cette belle biographie de Michel de Saint-Pierre qui permet de réveiller le souvenir d'un écrivain qui nous a quittés il y a tout juste 39 ans et qui est encore présent dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, mais qui néanmoins n'est pas connu des jeunes générations qui sont arrivées après. On sait que tout écrivain connaît une période de purgatoire après sa mort, et votre biographie va certainement contribuer à l'en sortir et à faire connaître cette très riche personnalité et ce grand écrivain. Alors, comment vous est venue l'idée de consacrer vos travaux à Michel de Saint-Pierre ?
Alors, effectivement, moi, j'ai lu Michel de Saint-Pierre lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais étudiant, lorsque j'avais une vingtaine d'années. J'avais beaucoup aimé cet auteur, donc évidemment ses ouvrages majeurs comme Les aristocrates ou Les nouveaux prêtres. Et effectivement, comme vous l'avez souligné très justement, Michel de Saint-Pierre s'est éteint le 19 juin 1987, il y a 39 ans. Et depuis, malheureusement, ces livres n'ont pas été réédités. Comme vous le dites, très souvent, à leur décès, des auteurs rentrent dans une période de purgatoire, ils ne sont plus lus, ils ne sont plus étudiés. Et donc, j'ai trouvé dommage parce que c'est un écrivain extrêmement riche, qui a une vie tout à fait passionnante, qui a touché à tous les styles littéraires, que ce soit le roman, la poésie, l'essai, le pamphlet. Ça a été effectivement, vous l'avez dit, un très grand combattant au service de l'Église et du sacerdoce. Et donc, je me suis dit que essayer de ressusciter en quelque sorte l'œuvre et la personnalité de Michel de Saint-Pierre, eh bien, ferait plaisir à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont lu, à ceux qui l'ont apprécié, et puis le ferait découvrir aux jeunes générations.
Alors, on peut peut-être, pour commencer cette émission et camper le décor, rappeler quelques-unes des œuvres qui ont été publiées par Michel de Saint-Pierre. Vous avez souligné à quel point son œuvre était très riche. Il a publié, cultivé différents genres. Alors, Les aristocrates reste sans doute son premier grand succès, un ouvrage qui a eu un rayonnement d'autant plus grand qu'il a fait l'objet d'une adaptation cinématographique avec notamment Pierre Fresnay. Nous pouvons évidemment citer Les Nouveaux Prêtres, qui à l'époque, en 1964, lors de sa parution, avait été, nous y reviendrons, l'objet d'une grande polémique dans les milieux religieux et suscité de très vives réactions. On peut citer L'Accusé, qui s'intéresse au monde de la justice et au monde carcéral, La Passion de l'abbé de Lens, qui est la suite des Nouveaux Prêtres, publié 13 ans plus tard, Le Docteur Erickson, qui lui est une enquête sur un autre milieu, celui de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Les Cavaliers du Feld, qui est consacré aux colons d'Afrique du Sud. Et puis, différents essais, notamment un essai consacré à son cousin, Monterland bourreau de lui-même, qui est un de ses premiers ouvrages. Essai également consacré à Fatima, consacré aux prêtres qui souffrent au moment de la crise conciliaire. Plus tardivement, parmi ses essais, La lettre ouverte aux assassins de l'école libre, publiée en 1982. On peut dire que Michel de Saint-Pierre a joué un rôle important dans la mobilisation des parents d'élèves dans les années 1982-1983 contre le projet de réforme de l'école libre mené par, sous la présidence de François Mitterrand, par son ministre de l'Éducation, Alain Savary. À un moment où l'épiscopat et la direction de l'enseignement catholique, comme vous le rappelez, étaient portés au compromis, à une forme de complaisance, de capitulation même, et qui a fini par se produire au cours des 20 années qui ont suivi. On peut également évoquer ses biographies historiques, Bernadette et Lourdes, Monsieur Vincent, la vie prodigieuse du curé d'Ars, le drame des Romanov, Monsieur de Charette, chevalier du roi. Et puis, vous soulignez également qu'il fut un poète, un grand poète, amateur de poésie, aimant la poésie, cultivant la poésie. Vous racontez d'ailleurs que dans l'entreprise dans laquelle il travaillait dans les années 50, il avait collègue Georges Pompidou, qui était un autre amateur de poésie, dont on conserve une anthologie de la poésie française, et que les deux hommes s'exerçaient à des joutes poétiques, récitant de mémoire des vers. Et non seulement Michel de Saint-Pierre est un amateur de poésie, mais il a également composé des poèmes. Ont-ils été publiés, d'ailleurs, ces poèmes ?
Oui, c'est un de ses derniers livres qui est paru en 1986, avant son décès, son avant-dernier livre. Et c'est effectivement un recueil de poèmes qui a été préfacé par Pierre Chaunu, et qui s'appelle La source et la mer.
D'accord, La source et la mer. L'œuvre de Michel de Saint-Pierre est une œuvre très riche, qui touche à des sujets nombreux, différents. L'on sent chez lui, dans cette œuvre, ce style du véritable journaliste qui est soucieux d'explorer un domaine, d'explorer en particulier une partie de la société, un monde particulier, la santé, la justice et la prison, par exemple, de mener l'enquête de décortiquer ce monde et d'en offrir la description à ses lecteurs pour permettre à ceux-ci de mieux connaître un monde qui leur était ignoré. Il y a chez Michel de Saint-Pierre une curiosité intellectuelle très grande qui le porte à explorer l'humanité de son temps dans toute sa richesse.
Oui, alors effectivement, c'était une de ses particularités. Il était effectivement romancier, il le disait lui-même, c'était vraiment, même s'il a, je dirais, touché à tout, c'était dans le roman qu'il s'épanouissait le plus. Mais il avait cette particularité, avant d'écrire un roman, il menait toujours une enquête sur le terrain, et ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, il le ressortait ensuite sous la forme romanesque. Et cette façon de procéder, il l'a utilisée, donc aussi bien pour son roman « Les nouveaux prêtres » qui paraît en 1964 et qui est là pour dénoncer l'infiltration marxiste au sein de la frange la plus progressiste de l'Église de France. Avant d'écrire ce roman, eh bien, il s'est rendu pendant plusieurs mois, il avait vraiment été installé dans la banlieue ouvrière autour de Paris, et pendant des mois, il a assisté à des messes, des offices, il était à des réunions, il a rencontré des paroissiens, il a rencontré des prêtres, il a lu des bulletins paroissiaux, et une fois que son enquête de terrain était terminée, il a écrit « Les nouveaux prêtres ». Et lorsqu'il a écrit « L'accusé » en 1972, comme vous l'avez rappelé, qui est un très très beau roman que vraiment dont je recommande la lecture, sur le monde de la prison des femmes, sur le monde de la justice, et bien là c'est pareil, il a visité des prisons, il est allé rencontrer des magistrats, il a rencontré des prisonniers, et une fois qu'il avait fait ce travail de terrain, il a écrit ce roman. Vous avez rappelé Dr. Erickson sur les problèmes de la médecine, sur les grands lobbies pharmaceutiques et médicaux. Et bien là, c'est pareil. Il s'est rendu à la faculté de médecine, il a rencontré des médecins, il a rencontré des professeurs. Et une fois qu'il avait fait, une fois encore, ce travail de terrain, il a écrit son roman. Il a également écrit un roman policier, Le double crime de l'impasse Salomon. Et bien là, c'est pareil. Il s'est rendu au Quai des Orfèvres. Il a enquêté, il a scruté, il a écouté, il a regardé. Et une fois que cela a été fait, il a écrit ce roman. Donc, voilà, c'est une des caractéristiques de son œuvre, c'est-à-dire que un très grand romancier, une très grande œuvre romanesque, mais qui, à chaque fois, s'ancre dans la réalité.
Oui. Alors, je reviens sur deux d'entre eux, le docteur Erickson sur le monde de la santé, où, il y a 50 ans, ses commentaires, ses réflexions font écho à la crise que nous avons connue il y a 5 ans sur le poids des intérêts financiers dans les décisions qui intéressent la santé publique et le fait que la santé publique est un enjeu en bonne partie financier. Il y a derrière le souci de grandes entreprises de dégager des profits importants et ce n'est pas neutre dans le choix des traitements qui sont proposés et imposés.
Oui, alors voilà. Alors, de même que lorsqu'il a publié L'accusé en 1972, il ne s'attaquait pas aux magistrats en tant que tel, mais il dénonçait. Il pointait du doigt toutes les travers qui peuvent exister dans le monde de la justice comme dans celui de l'administration pénitentiaire. Eh bien, lorsqu'il publie le docteur Erickson en 1982, c'est pareil, il ne s'attaque pas du tout aux médecins. D'ailleurs, lui-même le dit très bien, il avait hésité lorsqu'il était plus jeune entre s'il avait eu une deuxième passion, c'était effectivement la médecine. Donc il avait un très très grand respect pour les médecins. Il était très ami avec le professeur Israël et donc effectivement dans ce livre, c'était un véritable hommage qu'il rend, je dirais, au travail des médecins de campagne qui accompagnent leurs malades jusqu'à la fin pour un certain nombre d'entre eux. Mais effectivement, il dénonce le poids de la bureaucratie. maladies, le poids de certains lobbies au sein de la médecine, le poids de ceux qui ne veulent pas entamer des médecines nouvelles parce que cela pourrait venir contrarier un certain nombre d'intérêts. Et donc voilà, il retranscrit tout à fait cette atmosphère. Et effectivement, c'est vrai que lorsque l'on a connu l'épisode du Covid il y a maintenant 5 ou 6 ans, avec les médecins de plateau qui venaient expliquer un certain nombre de choses où il y avait beaucoup d'erreurs, eh bien voilà, finalement, on se dit que ce livre qui a été publié en 1982 a presque trouvé son expression suprême avec la crise sanitaire d'il y a 5 ans.
Alors, quand vous parlez de l'accusé, on relève sous sa plume des détails qui sont saisissants et qui, en un mot, restituent toute l'atmosphère, notamment à propos de l'univers carcéral. Vous mettez en valeur son insistance sur cette odeur qui prend à la gorge, qui vous envahit quand vous pénétrez dans une prison. Et c'est une expérience que j'ai faite moi-même, m'y rendant comme visiteur dans un cadre officiel il y a 25 ans. Cette odeur terrible qui vous poursuit même quand vous n'y restez qu'une demi-heure. Et cette insistance permet de rendre compte de toute une atmosphère.
Alors effectivement, c'est l'odeur, oui, effectivement, dans les prisons, vous avez tout à fait raison de le souligner, toute personne qui est rentrée dans une prison est marquée par deux choses, l'odeur et le bruit. Le monde carcéral est un monde extrêmement bruyant toutes les personnes qui ont pu écrire sur la prison. Voilà, je sais que le journaliste François Brignot, qui avait été incarcéré à la fin de la guerre en 1944, a tout à fait traduit cela. Jacques-Benoît Méchain, le grand historien qui lui aussi était en prison au lendemain de la guerre, a également parlé de cette odeur qui peuple en quelque sorte les prisons, et c'est cette odeur qui vous imprègne, et lorsque vous quittez la prison, vous sentez que cette odeur continue de vous poursuivre. Eh bien, on retrouve également cela sous la plume de Michel de Saint-Pierre, puisque ce roman, qui est un roman absolument magnifique, qui raconte l'histoire d'une épouse bafouée par son mari et qui finit par tuer son mari. Donc, elle se livre tout de suite à la police qui la livre ensuite à la justice, et c'est toute l'histoire donc, de son procès, de son incarcération dans une prison de femmes. Et donc, on voit déjà que dans les années 1970, l'univers carcéral était un univers extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Bon, la situation, évidemment, ne s'est pas améliorée. Mais voilà, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il y a effectivement ce thème de la justice, ce thème du monde carcéral, ce thème du crime qui est abordé, ce thème de la femme bafouée. Et Michel de Saint-Pierre rappelle que sur le plan juridique, dans les années 1970, l'égalité entre le mari et l'épouse n'existait pas. Mais l'intérêt, c'est que ce livre-là ne sombre jamais dans le mélodrame, dans le pathos. Voilà, ça reste vraiment un très, très grand roman, mais qui s'ancre dans la réalité. Et un roman qui a été porté à la télévision au début des années 1970, dans une série télévisée qui lui est tout à fait fidèle. Et donc voilà, moi, c'est vraiment un livre que je conseille très vivement, aussi bien aux personnes plus âgées, enfin voilà, qui ont lu Michel de Saint-Pierre et qui peuvent se replonger dans ce roman, comme aux jeunes générations. Je pense que c'est un livre qui peut passionner et intéresser beaucoup de personnes.
Et vous le recommandez en tant qu'avocat qui connaît bien tout ce dont parle Michel de Saint-Pierre.
Exactement, vraiment. C'est vrai que les arcanes de la justice tels que le Michel de Saint-Pierre les décrit, le monde de la prison, voilà, on est vraiment dans la réalité. On est dans la réalité, on est dans le monde du roman. C'est un très très beau roman avec tout ce qu'il faut pour que ce roman soit agréable à lire, mais un roman tout à fait ancré dans la réalité.
Alors, cette œuvre très riche, elle est aussi le fruit d'un parcours très riche, d'une expérience de la vie qui est très riche, qui est faite d'abord d'engagement, et d'engagement parfois étonnant, qui est faite de rencontres nombreuses, avec des personnalités importantes. À cet égard, Michel de Saint-Pierre a été assez privilégié. C'est un cousin de Monterland. Il a connu la Varande, il a connu Tixier-Vignancourt, il a connu De Gaulle. Il n'est pas si fréquent d'avoir connu les deux à la fois, et d'avoir rencontré les deux à la fois à la même époque. Il a connu Georges Pompidou, il a été le beau-frère de Michel Poniatowski. Il a connu Monseigneur Lefebvre. Il a connu toute l'équipe d'itinéraire avec laquelle il a collaboré, celle de Témoignages chrétiens quelques années plus tôt. Il a connu, nous y reviendrons d'ailleurs, hein, cette singularité, cette indépendance d'esprit qui caractérise Michel de Saint-Pierre, qui a probablement été le seul monarchiste qui ait jamais écrit dans Témoignages chrétiens. Il a rencontré deux papes, à ma connaissance, Pie XII et Jean-Paul II. Donc de belles rencontres. Et puis, en sa qualité de journaliste, beaucoup de voyages très intéressants au Portugal, en Afrique, qui ont nourri quelques-unes de ses enquêtes. Pouvez-vous rappeler les grandes étapes de ce parcours très riche de Michel de Saint-Pierre, afin que nos auditeurs en aient la vision la plus complète possible?
Oui, alors effectivement, il a un parcours assez atypique, parce que comme vous le rappeliez, bon, il est issu d'une famille aristocratique, je dirais de la vieille aristocratie qui s'ancre dans l'Ancien Régime. Il était cousin et sud-germain de Monterland, sa famille était liée à Jean de la Varande. Il fait ses études, il va au lycée à Saint-Jean-de-Béthune à Versailles. Ensuite, après avoir obtenu son bac, il s'inscrit en faculté de lettres. Et là, il s'aperçoit que finalement, le monde des études n'est pas ce qui l'enthousiasme, ce n'est pas ce qu'il recherche. Et à 19 ans, il s'engage comme simple ouvrier au chantier naval de Saint-Nazaire. Et là, il va rester ouvrier de base, je dirais, pendant un an. Il va donc véritablement se heurter à la dure condition du monde ouvrier. Et on peut dire que là, son parcours rappelle un petit peu celui de Simone Veil, la grande philosophe qui, elle aussi, intellectuelle, avait voulu connaître la rigueur, la dureté du monde ouvrier.
Et lui qui a fini par être débusqué par ses compagnons de travail, qui ont fini par découvrir quelle était son origine à un moment de lutte de classe féroce, a réussi à gagner l'estime, non sans mal, de ceux avec lesquels il travaillait.
Voilà, exactement, parce qu'il il est arrivé, je dirais tout à fait incognito, au chantier naval de Saint-Nazaire, et un jour, il reçoit une lettre qui tombe entre les mains de plusieurs ouvriers avec lesquels il travaillait, sur lequel c'était marqué « Marquis Michel de Saint-Pierre ». Donc, il s'en est suivi une bagarre entre lui et ses ouvriers, puis le surnom de Marquis qui lui est resté. Et Michel de Saint-Pierre raconte qu'il avait comme chef un Briéron, donc du marais de Brière en Loire-Atlantique, un homme qui ne parlait absolument jamais, extrêmement dur, qui était un homme qui n'exprimait absolument aucun sentiment. Et puis Michel de Saint-Pierre, eh bien, à force de persévérance, à force de courage, un jour, au bout de quelques mois, ce supérieur, qui était lui-même un ancien ouvrier, donc les anciens ouvriers, je dirais, qui ont pu prendre du grade, sont d'autant plus sévères avec les personnes qui sont sous leur autorité, eh bien, au bout de quelques mois, ce Briéron, qui ne disait jamais rien, lui a dit « Marquis, tu travailles bien ». Et donc, Michel de Saint-Pierre vraiment a pris cela comme une très belle reconnaissance et une belle gratitude de la part de ce supérieur qui le surveillait depuis qu'il travaillait. Donc voilà, Michel de Saint-Pierre passe un an au chantier naval de Saint-Nazaire. Ensuite, il s'engage comme simple matelot dans la marine, où il va rester pendant 4 ans. Donc, encore une fois, matelot sans spécialisation. Donc, il est vraiment en bas, je dirais, de l'échelle militaire, comme il était en bas de l'échelle sociale lorsqu'il était ouvrier. Donc, il va rester 4 ans en tant que matelot. Il va participer au combat de 1940 sur le Foch. Puis, il va être démobilisé. Il va regagner Paris, où il va trouver du travail. Il va d'ailleurs faire un petit boulot avant de trouver un travail un petit peu plus stable. Et à partir de 1943, il va rejoindre un réseau de résistance qu'il animera pendant jusqu'en 1944-1945, ce qui lui vaudra, je dirais, d'avoir toutes les décorations que la résistance a pu donner à l'époque.
Un réseau dont l'activité était le renseignement.
Qui était le renseignement et qui va communiquer aux Anglais, qui les communiqueront aux Américains, un certain nombre de renseignements sur les rampes de lancement des missiles V1 et ce type de missiles. Et donc, renseignements qui seront extrêmement utiles lors du débarquement de Normandie en 1944.
Et ce sont les réseaux dont l'activité était la plus dangereuse, celle qui... suscitait l'action la plus de répression la plus féroce de la part des services de la Gestapo, compte tenu de l'enjeu que représentaient ces réseaux.
Exactement. Et effectivement, un certain nombre de compagnons de Michel de Saint-Pierre, voilà, qui faisaient partie de ce réseau, le réseau qui s'étendait sur voilà, une grande partie de la France, bah, plusieurs de ces compagnons, effectivement, mourront ou en déportation ou seront exécutés par les troupes d'occupation. Donc, on peut dire que voilà, Michel de Saint-Pierre a vraiment pris des risques. Voilà, ce n'était pas un résistant de la dernière heure. Voilà, ce n'était pas ces résistants qui ont pu prendre un fusil au lendemain du 6 juin 1944.
Ou plus particulièrement une tondeuse. Ou peut-être davantage une tondeuse le 31 août 1944.
Voilà,
pour se revancher au détriment de pauvres femmes des lâchetés auxquelles ils avaient cédé pendant 4 ans.
Exactement. Mm-hmm. Voilà, donc, vous voyez, donc, là, on est en 1945. Michel de Saint-Pierre a un petit peu moins de 30 ans et il a déjà été donc, ouvrier, il a été matelot, il a été militaire, il a été résistant. Et c'est véritablement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il va commencer véritablement sa carrière d'écrivain et, comme vous l'avez souligné, carrière d'écrivain, mais également carrière de journaliste, puisqu'il va, suite à son engagement dans la résistance, il va rejoindre l'hebdomadaire Témoignage chrétien, où il va tenir de 1946 à 1954 la rubrique de critique cinématographique. Et donc là, il est assez intéressant de voir, et ça correspond bien à sa personnalité, un homme, je dirais, extrêmement éclectique, dépourvu de tout sectarisme, et ses critiques cinématographiques sont très intéressantes parce que, là encore, il aborde tous les thèmes, aussi bien le film policier que le western ou le dessin animé, et là, il fait vraiment preuve d'un grand éclectisme, loin de tout sectarisme.
Et quelle était son influence en tant que critique cinématographique ?
Alors, je pense que ces critiques ont dû être lues par de nombreux lecteurs, parce que même si aujourd'hui Témoignage chrétien, je dirais, n'a plus beaucoup d'influence, mais à l'époque, on était vraiment à l'époque de la presse écrite, de la presse papier, où il y avait des tirages extrêmement importants. Voilà, à l'époque, là, c'était des centaines de milliers d'exemplaires qui étaient tirés pour les différents journaux papier. Donc, il est tout à fait certain que des spectateurs, des lecteurs ont lu Michel de Saint-Pierre, ont pu apprécier ses chroniques, ont pu apprécier ses critiques et sont allés au cinéma voir des films après avoir pu lire les critiques qu'il avait écrites.
Alors, Témoignage chrétien, qui se retrouve dans un milieu chrétien progressiste, et semble-t-il, mais c'est un point que vous n'abordez pas, il a été en lien avec l'abbé Pierre et au moment de la fondation de l'œuvre Emmaüs.
Oui, c'est vrai que lorsque l'abbé Pierre a lancé son célèbre appel en 1954, lors de l'hiver extrêmement froid qui avait touché la France, effectivement, Michel de Saint-Pierre a rencontré l'abbé Pierre à plusieurs reprises. Oui, il y a une photo, effectivement, mais que je n'ai pas publiée, où l'on voit Michel de Saint-Pierre en compagnie de l'abbé Pierre en train de visiter... voilà ce qui était à l'époque assez répandu, les taudis que l'on pouvait trouver aux périphéries des grandes villes.
On retrouve là son attention pour les plus humbles, pour les plus démunis, qu'il avait connu à Saint-Nazaire, ce souci social, cette conviction sociale qui l'animait.
Oui, alors effectivement, lorsqu'il était, on retrouve effectivement ce sentiment dans un de ses premiers livres qui était paru en 1948, qui s'appelle « Ce monde ancien », qui était inspiré de sa vie d'ouvrier, livre intéressant, qui est dans la rédaction est assez originale, dans la mesure où elle met en parallèle deux personnages principaux, Gilles de Lointrain, qui est un aristocrate qui va s'engager, qui va devenir ouvrier, donc on retrouve bien la facette de Michel de Saint-Pierre, et un deuxième personnage, René Lester, qui lui est un ouvrier qui vient du monde ouvrier, mais qui au sein des usines s'oppose à la mainmise des syndicats marxistes. Et effectivement, Michel de Saint-Pierre porte le regard qui était le sien sur le monde ouvrier, qui est un regard, je dirais, plein de tendresse, sans aucun jugement. Et on peut dire que Michel de Saint-Pierre s'inscrit dans, je dirais, la tradition des catholiques sociaux qui avaient eu toute leur place à la fin du XIXe siècle, qu'il s'agisse d'Albert Demain ou de René Latour-Dupin, ou même de la lettre publique sur les ouvriers qui avait été publiée par le comte de Chambord en 1865, et bien sûr Léon XIII et son encyclique Rerum Novarum de 1891, où je dirais que c'était à la fois une critique du capitalisme et évidemment du marxisme.
Est-ce que Michel de Saint-Pierre avait été informé, est-ce qu'il était au courant des accusations qui étaient portées dès la fin des années 50 sur l'abbé Pierre et des sanctions que la hiérarchie de l'Église avait prises contre lui dès la fin des années 50 et dont les évêques étaient informés, Mgr Lefebvre, à l'époque, Luther Chevec, évêque de Tulle, en avait été informé en 1962. Donc l'Église, très tôt, avait pris ses dispositions. Et si d'ailleurs, sur cette affaire, quelqu'un devait manifester des regrets, ce ne serait pas l'Église, mais le monde médiatique qui a idolâtré l'abbé Pierre jusqu'à sa mort pour pouvoir s'en servir. Est-ce que Michel de Saint-Pierre avait eu écho de ces à la fin des années 50 ou au début des années 60 des accusations et des reproches qui étaient faits à l'abbé Pierre?
Alors, à ma connaissance, non. Enfin, je ne sais pas, mais en tout état de cause, toute sa correspondance extrêmement riche qui se trouve aux Archives nationales. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'avoir compulsé des lettres où il parlait de l'abbé Pierre, que ce soit en bien ou en mal. Donc, sur cette question, est-ce qu'effectivement, il a pu être au courant des turpitudes de l'abbé Pierre, dont effectivement, qui sont restées sous silence pendant assez longtemps, ça, je ne sais pas.
En fait, il a aidé une œuvre sans être particulièrement proche de son fondateur. C'est l'impression que cela donne.
Effectivement, il y a cette photo où on voit Michel de Saint-Pierre en compagnie de l'abbé Pierre. Abbé Pierre qui était encore très jeune à l'époque, mais j'ai pas le sentiment que l'abbé Pierre ait tenu une place très importante. Encore une fois, que ce soit dans ses différents livres, notamment tous ses livres religieux, ou que ce soit dans sa correspondance avec de très nombreux évêques, que sa correspondance évidemment avec Mgr Lefebvre, le nom de l'abbé Pierre ne revient pas.
N'apparaît jamais. Et alors, on arrive là au milieu des années 50 avec la publication des Aristocrates qui lance Michel de Saint-Pierre dans le monde des lettres et fait de lui un écrivain connu et reconnu.
Voilà, alors Michel de Saint-Pierre, comme je vous le disais, avait publié donc en 1948 ce Monde ancien qui retraçait sa vie de manœuvre, hein, qui était inspiré de sa vie de manœuvre. Il avait également publié un très beau livre inspiré de sa vie de marin qui s'appelle La mer à boire et que je conseille très vivement. Mais effectivement, ce sont les aristocrates qui vont véritablement le lancer, qui vont faire de lui un écrivain populaire au meilleur sens du terme, avec, je dirais, un coup double, avec non seulement le roman qui va se vendre à plus de 600 000 exemplaires, mais également, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le film avec Pierre Fresnay et Maurice Ronet, qui sera alors un petit peu différent du livre tout en étant fidèle, je dirais, à 70% au livre. Film qui va rentrer un très très grand succès, puisqu'il y aura 3 millions d'entrées. Et effectivement, à partir des aristocrates, Michel de Saint-Pierre sera un écrivain connu et reconnu. Et c'est là où on voit que le courage l'animait, puisque bien, je dirais qu'une fois qu'il était installé dans le monde des lettres, je dirais le confort du monde des lettres, il aurait pu se satisfaire de cette place. Eh bien, pas du tout. Il va prendre un engagement politique, un engagement religieux,
À
et
contre-courant.
vraisemblablement
À
à contre-courant,
contre-courant.
voilà. Donc notamment en 1963, donc un an avant la publication des Nouveaux Prêtres, il va publier un plaidoyer pour l'amnistie où il prend la défense des militaires et des civils qui ont défendu l'Algérie française et qui sont encore emprisonnés.
Et
Donc
qui a
là,
été...
ouais, c'était vraiment un acte purement gratuit où il n'y avait que des coups à prendre.
Et qui s'est
Il va partir.
prolongé en 1968 par l'audience qu'il a demandé au général de Gaulle, arguant de sa
Exactement.
qualité d'ancien résistant, pour lui demander l'amnistie des officiers qui étaient encore à l'époque incarcérés.
Exactement. Michel de Saint-Pierre va donc écrire directement au général de Gaulle pour lui demander une audience. Le général de Gaulle connaissait Michel de Saint-Pierre en sa qualité d'écrivain. Il savait que Michel de Saint-Pierre avait été dans la résistance et de Gaulle va accepter de le rencontrer. Et Michel de Saint-Pierre, voilà, retranscrit le dialogue qu'il y a eu entre les deux hommes, un dialogue, je dirais, courtois, mais ferme toutefois. Et Michel de Saint-Pierre, effectivement, a demandé au général de Gaulle, quelque peu estomaqué, non seulement l'amnistie pour le général Salan, qui était encore emprisonné, mais également pour tous les prisonniers et tous ceux qui avaient dû se réfugier à l'étranger, une amnistie générale. Amnistie générale qui interviendra quelques mois plus tard, qui ne sera pas due à l'intervention de Michel de Saint-Pierre, mais plus davantage aux événements de mai 1968. Mais voilà, vous voyez ce courage, une certaine audace, peut-être même un culot de Michel de Saint-Pierre, tout simplement de prendre sa plume
Alors,
et d'aller voir directement le chef de l'État pour obtenir cette amnistie.
petite question que je voudrais vous poser. L'éminence grise du général de Gaulle, Jacques Foccart, qui avait le privilège de pouvoir s'entretenir avec lui sans rendez-vous quotidiennement, a laissé un journal très détaillé dans lequel il rend compte des échanges quotidiens qu'il avait avec le général de Gaulle. Est-ce que dans le journal de Jacques Foccart, il est fait écho de cet entretien que le général de Gaulle avait accordé à Michel de Saint-Pierre. Et dans ce cas, qu'est-ce qui ressort de l'échange de Gaulle-Foccart et donc par conséquent de la perception de cette visite par le général de Gaulle?
Alors, je dois vous avouer que je ne sais pas. Je ne sais pas si Foccart en parle. J'ai pas été vérifié. Mais en tout cas de cause, Michel de Saint-Pierre, lui, lorsqu'il parle de cet entretien, il a déjà l'impression d'un De Gaulle assez fatigué, peut-être malade déjà. Mais en tout cas de cause, un De Gaulle qui restera sur ses positions, qui ne cédera pas, notamment sur Salan. On sent effectivement chez De Gaulle une animosité particulière à l'égard de Salan. Michel de Saint-Pierre va essayer de convaincre De Gaulle du contraire, de lui montrer que Salan n'a pas du tout agi par haine à l'égard de De Gaulle, mais véritablement par fidélité à la parole donnée. Voilà, c'est ce qui ressort de l'entretien que Michel de Saint-Pierre avait publié quelques temps après cet entretien dans la revue Itinéraire et qui avait été repris lorsque Salan est décédé en 1984 dans l'hebdomadaire National Hebdo.
Et ces années 60, c'est aussi pour lui le temps des grands combats. On vient d'évoquer l'amnistie, c'est la publication des nouveaux prêtres avec toute la polémique qui l'a accompagné. C'est son engagement pour la défense de l'Église à un moment particulièrement critique. C'est aussi son engagement auprès de Tixier-Vignancourt en 1965. Aux élections municipales d'abord à Paris et puis ensuite à l'élection présidentielle. Ce sont des années de combat.
Alors effectivement, là, pendant toute cette période, Michel de Saint-Pierre va un petit peu, je dirais, déserter le champ romanesque où il va revenir au début des années 70. Et effectivement, de 1964, date de la publication des Nouveaux Prêtres, jusqu'au lendemain des élections présidentielles de 1969, Michel de Saint-Pierre va effectivement, je dirais, être de tous les combats. Comme vous l'avez rappelé, il sera candidat aux élections municipales à Paris en 1965, les listes patronnées par Tixier-Vignancourt, les listes Paris, où les listes feront une moyenne de 10% sur Paris, ce qui était un beau score et qui laissait augurer que finalement Tixier réaliserait peut-être en cette fin des 65 un score identique. Bon, ça n'a pas été le cas puisque Tixier-Vignancourt, concurrencé en dernière minute par Jean Le Canuet, a vu son score diminuer pour atteindre finalement un petit peu plus de 5% au premier tour des élections de décembre 65. Michel Saint-Pierre, il faut le remarquer, donc après l'échec de Tixier aux élections présidentielles, le comité qui l'avait soutenu va exploser. La défaite n'encourageant pas et ne favorisant pas l'unité. Et Michel de Saint-Pierre va rester aux côtés de Tixier-Vignancourt, qui va essayer après, mais sans réussite, à relancer son combat politique en créant l'Alliance républicaine pour les libertés et le progrès. Michel de Saint-Pierre sera aux côtés de Tixier-Vignancourt, mais cette aventure politique tournera court et Tixier-Vignancourt n'aura pas le succès qu'il espérait. Voilà. Et donc finalement, ce sera un échec comme sa candidature en 1965. Échec, même si effectivement Tixier-Vignancourt n'a rassemblé que 5,09% des voix, mais c'était quand même plus d'un million d'électeurs, et ce qui était quand même pas mal.
Alors les années 70, c'est le combat pour la messe, l'association Credo, les liens avec Mgr Lefebvre, avec l'année 1976, et la messe de Lille, l'appel des universitaires et des écrivains catholiques en faveur de Mgr Lefebvre, qui avait été préparé par Jean de Vigry. Ce sont ces événements qui ont occupé une place particulièrement marquée dans l'engagement de Michel de Saint-Pierre.
Oui, alors effectivement, après avoir été le défenseur du sacerdoce avec ce livre Les Nouveaux Prêtres, eh bien, son combat va très rapidement rejoindre celui de Mgr Lefebvre. Et dans les années 1970, effectivement, lorsque Mgr Lefebvre va créer la Fraternité Saint-Pédis, c'est que malgré lui, il va commencer un bras de fer avec les évêques français, eh bien, Michel de Saint-Pierre va apporter tout son soutien à Mgr Lefebvre avec la création de l'association Credo, et notamment 1976, l'été très chaud où Mgr Lefebvre a ordonné des prêtres contre l'autorisation de Paul VI, que Mgr Lefebvre va être suspendu à sa vie Divinis, eh bien, Michel de Saint-Pierre va effectivement signer une tribune prenant la défense de Mgr Lefebvre, tribune qui aura un écho médiatique important puisque toute la presse va en parler. Michel de Saint-Pierre sera invité à venir débattre à la télévision et c'est à partir de cette époque où effectivement il y aura une correspondance écrite très très riche entre Mgr Lefebvre et Michel de Saint-Pierre, Michel de Saint-Pierre écrivant à Mgr Lefebvre, Mgr Lefebvre répondant à Michel de Saint-Pierre, et on retrouvera souvent dans des réunions, dans des colloques, Michel de Saint-Pierre aux côtés de Mgr Lefebvre.
Alors vous soulignez tout à l'heure le bras de fer entre Mgr Lefebvre et les évêques. Je voudrais faire écho au témoignage laissé par celui qui n'était encore qu'un séminariste et qui est devenu plus tard un monseigneur de la curie romaine, Mgr Jacques Masson, et qui témoigne qu'en 1974, certains évêques de France lui avaient, je dis bien 1974, donc avant Lille, avant les premières ordinations, et donc bien avant aussi les sacres de 1988, certains de ces évêques lui avaient dit tel quel, Mgr Lefebvre, nous le pousserons au schisme, ce qui témoigne de leur part d'une volonté de se débarrasser de lui sans lésiner sur les moyens.
Oui, surtout que la lutte contre Mgr Lefebvre a commencé lorsque les évêques se sont réunis à Lourdes en 1972-73, où ils ont employé l'expression de séminaire sauvage à propos du séminaire d'Écône, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de séminaire sauvage, dans la mesure où le séminaire avait été créé en plein accord avec les autorités religieuses du lieu. Donc c'est effectivement ce terme de séminaire sauvage, qui est un terme tout à fait inexact, qui était, je dirais, le commencement des hostilités.
Vous écoutez Radio Courtoisie, Philippe Pichot-Bravard reçoit Thierry Bouclier pour parler de Michel de Saint-Pierre. Vous allez maintenant écouter un petit bobino qui va vous rappeler que notre radio est une radio libre, indépendante, qui n'a pas de ressources publicitaires. Et c'est bien ce qui garantit son indépendance et qui, par conséquent, a besoin de l'aide de ses amis et de ses auditeurs pour continuer à exister et pour réaliser les investissements nécessaires à son existence et au perfectionnement des émissions qu'elle vous offre.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, Thierry Bouclier, vous venez de publier aux éditions Via Romana une biographie de Michel de Saint-Pierre. Michel de Saint-Pierre, une biographie. Très bel ouvrage que vous présenterez le samedi 20 juin à la librairie du Ken, entre 14 et 18 heures, 19 heures.
Oui, entre 14h et 18h, oui.
Voilà, donc on ne saurait trop encourager les auditeurs qui écoutent cette émission de venir vous rendre visite et de venir se procurer votre livre et de vous demander une petite dédicace.
Donc voilà, oui, donc, l'émission était enregistrée, donc nous sommes donc le vendredi 19, donc effectivement la dédicace a lieu demain à la librairie du Ken, avenue du Ken, que les auteurs de Radio Courtoisie connaissent bien.
Alors si nous revenons sur la personnalité de Michel de Saint-Pierre, il y a en vous lisant quatre traits de caractère qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, nous en avons déjà dit un mot, et c'est pourquoi il est inutile d'y revenir, c'est une curiosité intellectuelle insatiable qui l'a porté à s'intéresser à toutes sortes de sujets dont il a fait l'objet de ses livres. Le deuxième trait que nous avons commencé à évoquer, c'est le grand chrétien, l'homme de Dieu, l'homme qui aime l'Église, qui veut la servir et qui est déchiré par ce qu'il voit dans les années 60, 70, 80. Cette crise qu'il a décrit, notamment dans Les Nouveaux Prêtres, qui lui ont valu tant d'attaques, et dans la passion de l'abbé de Lens. Et derrière le grand chrétien, le défenseur de la tradition, le défenseur de la messe, il y a une âme contemplative qui cultive la poésie. Et je relierai volontiers cet amour de la poésie à cet esprit religieux. J'ai le sentiment que cet amour de la poésie qu'il cultivait témoigne de son caractère contemplatif.
Oui, alors effectivement, ce caractère contemplatif, moi je trouve qu'il s'exprime de manière absolument admirable dans ce très beau livre qui est La Passion de l'abbé de Lens, qui est la suite des Nouveaux Prêtres, les Nouveaux Prêtres donc, qui paraissent en 1964, et La Passion de l'abbé de Lens paraît en 1978, 14 ans après. Et donc, on va dire que les Nouveaux Prêtres avaient un ton un petit peu polémique, qui voulait vraiment secouer le landerneau religieux de l'époque, dénoncer cette infiltration marxiste au sein de l'Église et ce dévoiement du sacerdoce par un certain nombre de prêtres. Et la Passion de l'abbé de Lens, donc, qui est la suite, hein, en 1964, le jeune Paul de Lens, l'abbé Paul de Lens, donc, qui est jeune prêtre dans sa paroisse de la région parisienne, revient 14 ans après, donc il a quitté sa paroisse et il y revient 14 ans après. Et là, vraiment, il y a des passages sur la messe, sur ce qu'est la messe, sur le sacrifice de la messe, des pages absolument magnifiques qui démontrent effectivement à la fois l'âme contemplative et poétique de Michel de Saint-Pierre.
Et que l'on retrouve dans son action au sein de l'association Credo en faveur de la messe traditionnelle.
Voilà, alors effectivement, ça, on va avec l'association Credo, donc Michel de Saint-Pierre va organiser notamment un grand pèlerinage, enfin plusieurs pèlerinages à Rome, et il va publier deux livres de témoignages sur effectivement la crise de l'Église, un en 1976, les fumées de Satan, pour reprendre l'expression de Paul VI, les fumées de Satan sont entrées dans l'Église, et en 1978, le ver est dans le fruit, où voilà, dans chacun de ces deux ouvrages, Michel de Saint-Pierre analyse la crise de l'Église qui frappe tous les sacrements et dans lesquels il montre, alors il y a à la fois une étude des difficultés que rencontre l'Église et puis des témoignages de paroissiens dans toute la souffrance qu'ils rencontrent dans ces années 1970 face au bouleversement qui viennent totalement déstabiliser l'Église.
Et il avait obtenu en 1979 la bénédiction de Jean-Paul II, qu'il avait rencontré dans les conditions les plus improbables, au cours d'une audience au cours de laquelle tout était fait pour qu'il ne puisse pas accéder au Saint-Père. Et grâce à l'entregent du jeune abbé Vac, qui avait été ordonné prêtre quelques mois plus tôt par Jean-Paul II, eh bien, il a pu accéder au pape et lui dire quelques mots et recevoir en retour sa bénédiction pour lui et pour son association.
Voilà, exactement. Donc, Michel de Saint-Pierre était en pèlerinage avec des membres de Credo. Donc, il y avait plusieurs centaines de pèlerins qui étaient à Rome. Et Michel de Saint-Pierre, donc, il y avait donc une audience du pape. Michel de Saint-Pierre était à Rome, effectivement, avec le futur Monseigneur Vac. Voilà, tout va être fait par l'entourage de Jean-Paul II pour empêcher Michel de Saint-Pierre d'approcher le pape. Et finalement, Michel de Saint-Pierre va réussir à rejoindre le pape, à parler au pape pour lui remettre un de ses très beaux livres, Bernadette et Lourdes, qu'il avait déjà d'ailleurs remis à Pie XII en 1958. Et donc Michel de Saint-Pierre qui a fait le forcing, comme on dit, pour atteindre Jean-Paul II. Et lorsqu'il a réussi à parler à Jean-Paul II, Michel de Saint-Pierre lui dit au pape qu'il est là avec tous les membres de Credo, et donc là Jean-Paul II le regarde en disant ah, tiens, je n'ai pas été prévenu de cette présence. Jean-Paul II envoie un regard un petit peu noir à un de ses collaborateurs, voulant peut-être lui dire « vous avez voulu me cacher quelque chose ». Et Jean-Paul II voilà, prend Michel de Saint-Pierre par la main, ils parlent tous les deux, et Jean-Paul II lui dit « je vous bénis, je bénis tous les pèlerins de Credo, je bénis tous les membres de votre association, dites-leur bien qu'ils ont la bénédiction
». Alors, il y a un troisième trait de caractère qui apparaît en vous lisant et dont Patrick de Beaucaron, l'un de ses amis, l'un de ses partenaires de tennis, car Michel de Saint-Pierre est aussi un grand joueur de tennis, dont il témoigne et dont il m'a fait parvenir le témoignage il y a quelques jours, c'est le combattant, le lutteur, l'homme qui ne se rend pas. Qui est toujours sur la brèche. J'en citerai deux anecdotes livrées par Patrick de Beaucaron. Ce questionnaire auquel il avait répondu, dans lequel se trouvait cette question, comment il aimerait mourir ? Et il répondait ceci, comment j'aimerais mourir ? En me battant. Voilà. Et puis cette autre anecdote soulignant que sur les cours de tennis, il disputait chaque partie jusqu'au dernier point sans rien concéder et sans jamais renoncer tant que le match n'était pas terminé. Et ce qui expliquait quelques-unes de ses belles victoires, notamment celle qu'il avait remportée avec Patrick de Beaucaron.
Oui, effectivement, Michel de Saint-Pierre avait un jour répondu au fameux questionnaire de Proust et effectivement, on lui avait demandé quelle était sa vertu préférée chez l'homme comme chez la femme, et Michel de Saint-Pierre avait répondu le courage il avait sa devise. Alors, la devise de la famille était « s'il plaît à Dieu », c'était la devise historique de la famille Saint-Pierre, mais lui, sa devise personnelle était « me compromettre ». Et effectivement, on peut dire qu'il toute sa vie, il n'a pas hésité effectivement à se compromettre. Encore une fois, grand romancier, grand écrivain, il aurait pu se contenter de ce statut qu'il avait acquis, donc on l'a dit, après la publication des Aristocrates, mais comme il voulait témoigner, comme il voulait apporter son soutien aux personnes qu'il aimait et aux causes qui lui étaient chères, eh bien, Michel de Saint-Pierre n'est pas du tout resté dans un confort, je dirais, un doublier, on peut dire quelque peu bourgeois, pas du tout. Il est allé constamment au combat.
Plus encore, d'ailleurs, non seulement il aurait pu se contenter de conserver ce qu'il avait, mais il aurait pu chercher par sa prudence ou par certaines compromissions. Il aurait pu obtenir des honneurs auxquels son talent lui donnait droit. Il aurait pu entrer dans des académies prestigieuses. Ces honneurs lui ont été refusés parce que précisément il s'était compromis pour ce qu'il croyait juste.
Oui, là, effectivement, c'est vrai que quand on s'engage pour Tixier-Vignancourt en 65, Tixier-Vignancourt n'était pas le candidat favori. En 1979, il avait accepté de prendre la tête de liste d'une liste aux élections européennes qui devait à l'époque rassembler le Parti des Forces Nouvelles et le Front National, qui était vraiment à l'époque groupusculaire, qui étaient deux groupes politiques assez marginaux et rivaux. Comme Michel de Saint-Pierre avait des amis chez les uns et chez les autres, il avait accepté d'être l'homme de l'unité, d'être la tête de liste. Le projet n'aboutira pas, bien évidemment, en acceptant d'être candidat de cette liste qui pouvait réunir peut-être 1 ou 2% des voix. Michel de Saint-Pierre n'avait que des coups à prendre, pas d'honneur à recevoir, et il avait quand même accepté de le faire.
Et puis, dans Les Nouveaux Prêtres, non seulement il s'est mis à dos tous les chrétiens progressistes, mais aussi toute une bien-pensance catholique qui lui a reproché d'avoir mis les pieds dans le plat et dénoncé une dérive qui touchait une part importante du clergé, qui était d'ailleurs relativement ancienne, parce que si l'on dresse l'histoire de cette dérive, il faudrait la faire remonter aux confins des années 20 et 30. C'est dès ce moment-là qu'un certain glissement est visible et que, à l'occasion de la grande crise des années 30, un certain milieu ecclésiastique a commencé à se rapprocher fortement des milieux marxistes.
Alors effectivement, lorsque les nouveaux prêtres paraissent, et Michel de Saint-Pierre, Jean Madiran a très bien rapporté la chose, Michel de Saint-Pierre ne s'attendait absolument pas à la campagne de dénigrement, de mauvaise foi, même de haine, qui a entouré la sortie de ce livre, campagne de dénigrement venant effectivement de la presse catholique la plus progressiste, qu'il s'agisse de témoignages chrétiens ou qu'il s'agisse de la Croix, mais également campagne de dénigrement menée par un certain nombre de responsables de l'Église à l'époque. Voilà, Jean Madiran a bien rapporté que Michel de Saint-Pierre en a été profondément meurtri, profondément blessé, parce qu'il ne s'y attendait absolument pas. Et Jean Madiran était d'autant mieux placé pour comprendre ce que Michel de Saint-Pierre avait dû ressentir, puisque lui-même avait dû faire face à une campagne d'hostilité en 1955, lorsqu'il avait publié son livre « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà, Madiran comprenait très bien la blessure qu'avait pu ressentir Michel de Saint-Pierre, mais il faut souligner que si Michel de Saint-Pierre a reçu des attaques de la part de la presse progressiste et d'un certain nombre d'évêques, il s'est rendu à Rome pour voir si Rome le soutenait ou non. Et là, à Rome, il a rencontré des évêques, des cardinaux qui lui ont demandé de ne pas se taire, de continuer le combat. Et encouragé par ces évêques et par ces cardinaux qu'il a rencontrés à Rome, eh bien effectivement, Michel de Saint-Pierre a décidé de ne pas se taire. Et je dirais que de 1964 jusqu'à son décès en 1987, il ne s'est pas tué.
Alors, dans ce souci de se battre, ce souci même de se compromettre pour ce qu'il croit juste, ce mépris des honneurs auquel il a tourné le dos en choisissant d'aller à contre-courant parce que c'était la voie qui lui semblait juste. Il apparaît un quatrième trait de caractère qui est très marqué chez lui, c'est son indépendance d'esprit, c'est sa très grande liberté. J'en ai donné un exemple tout à l'heure, en rappelant qu'il a été probablement le seul monarchiste qui ait jamais écrit dans Témoignages chrétiens, mais il a été aussi un grand résistant, écœuré par l'épuration. On parle beaucoup des résistants du 31 août 1944 qui n'ont résisté qu'avec une tondeuse, au détriment de pauvres femmes, mais il y a eu aussi ceux qui ont été résistants pendant l'occupation et qui ont été des maréchalistes de la 25e heure. Et c'était le cas de Michel de Saint-Pierre, qui faisait partie de l'association des Amis de Robert Brasillac, qui faisait partie de l'association pour la mémoire du maréchal Pétain, et qui appartient alors à un courant qui, aujourd'hui, compte tenu de la manière très manichéenne dont est présentée l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, serait incompréhensible à beaucoup de personnes, notamment parmi les jeunes générations, mais tout un courant son écœurement devant les injustices de l'épuration. J'en veux pour preuve notamment le général Loustou Nolako qui, lors du procès du maréchal Pétain, disait « Je ne dois rien au maréchal Pétain, mais je suis écœuré par toutes les personnes qui sont ici, qui veulent refiler à un vieillard presque centenaire l'ardoise de toutes leurs erreurs. » Et qui songeait sans doute notamment à Paul Reynaud en prononçant ces mots. Je pense aussi à Jacques Isorni, l'avocat de Robert Brasillac et du maréchal Pétain, pour lequel Jacques Vergès avait la plus grande estime, notamment, et qui expliquait ceci. aussi, lui qui défendait les communistes pendant l'occupation, devant les tribunaux du gouvernement de Vichy. Je suis un avocat, j'ai toujours été du côté des prisonniers. La seule chose, c'est que les prisonniers ont changé de camp. Et Michel de Saint-Pierre, et vous citez son discours, un extrait de l'un de ses discours, a rendu hommage au maréchal Pétain en inscrivant son action de résistance dans le prolongement de ce qu'avait pu encourager le maréchal et une partie de son entourage.
Oui, alors là, vous mettez le doigt, je dirais, sur un aspect de la personnalité de Michel de Saint-Pierre qui est extrêmement intéressant. C'est que Michel de Saint-Pierre, effectivement, était hostile, était étranger à toute forme de manichéisme et de sectarisme. Et je crois que malheureusement, un des drames de notre époque, c'est que l'histoire, notamment l'histoire la plus récente, est regardée avec ce prisme du manichéisme où tout doit être simplifié avec les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, tout est noir, tout est blanc. Or, la réalité des hommes, comme la réalité de l'histoire, est beaucoup plus complexe. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, l'histoire est racontée d'une telle manière aujourd'hui que je pense que les jeunes générations ne peuvent pas comprendre. Effectivement, nous avons ici un Michel de Saint-Pierre qui était résistant, qui avait toutes les décorations possibles et imaginables, et malgré cela, rendait justice au maréchal Pétain. Nous avons Michel de Saint-Pierre, grand résistant et authentique résistant, en ce sens que, comme il le disait lui-même, il ne faisait pas teinter ses médailles en permanence. Voilà, il était extrêmement modeste sur cette question, mais tout résistant qu'il était, il appréciait beaucoup l'œuvre de Robert Brasillac et déplorait que Brasillac ait été fusillé en 1945. Michel de Saint-Pierre était un grand ami d'Israël, défenseur d'Israël, ami des Juifs, et voilà, il prenait...
Du professeur Julien Israël.
Comment ?
Grand ami du professeur Julien Israël, notamment.
Exactement. Et il avait, il y a une très belle lettre où il prend la défense de Lucien Rabaté. Voilà. Donc vous voyez, toute cette personnalité, et c'est ça aussi moi qui m'a plu chez lui, c'est que ce manichéisme actuel où finalement les personnes sont mises dans des cases, dans des catégories, eh bien Michel de Saint-Pierre fait exploser toutes ces catégories. On le voit également grand ami du grand écrivain et académicien Léopold César Senghor, et tout en étant ami et admirateur de l'œuvre de Senghor, eh bien il dénonçait les campagnes menées dans les années 80 contre l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Et comme vous l'avez rappelé, il a écrit ce très beau livre, Les Cavaliers du Veld, pour raconter l'épopée des Européens qui se sont installés en Afrique du Sud à la fin du XVIIe siècle.
En se plaçant dans une perspective historique, c'est-à-dire en partant du XVIIe siècle, des Huguenots notamment qui se sont installés là-bas, sur une terre vierge, et qui l'ont cultivée.
Exactement, exactement.
Oui, en fait, on retrouve dans cette indépendance d'esprit la conscience de la complexité des choses humaines et de des difficultés auxquelles les hommes ont été confrontés au cours de l'histoire, et que il ne faut pas lire l'histoire de manière anachronique de ce que nous savons de ce qui s'est passé après, mais au contraire, tenir compte des nuances, tenir compte des subtilités, tenir compte de la complexité des personnes en présence et des difficultés du moment.
Oui, ça c'est effectivement un des travers de notre époque, c'est cette simplification à l'extrême, cette réduction, cette lecture binaire des événements, qui effectivement ne correspond absolument pas à la complexité de l'histoire, à la complexité des hommes. Et on retrouve toujours sur cette indépendance de Michel de Saint-Pierre, à la fois voilà, un homme très attaché à l'ancienne France, un homme très attaché aux traditions, mais en même temps un homme pleinement du XXe siècle qui avait, un pied dans la modernité et un pied dans le passé. Un homme, encore une fois, attaché aux traditions, mais qui, à titre d'exemple, était féru de voitures de course. C'était à la fois un regard vers le passé, mais un homme pleinement de son siècle.
Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, Thierry Bouclier, pourriez-vous nous dire, parmi les œuvres de Michel de Saint-Pierre, celles qui vous touchent le plus ou faire partager un passage ou plusieurs passages de son œuvre qui vous ont particulièrement marqué, particulièrement influencé?
Alors, moi, en ce qui concerne les ouvrages, si je pouvais en recommander quelques-uns, j'en recommanderais, cinq. J'aime beaucoup son premier roman, La mer à boire, son deuxième roman, qui est La mer à boire, dans lequel il s'inspire de sa vie de marin. C'est un très, très beau livre. Sur le plan religieux, évidemment, je conseille de lire Les Nouveaux Prêtres et La Passion de l'abbé de Lens, dont on va parler tout à l'heure. Évidemment, Les Aristocrates, comme on l'a dit, est le livre qui l'a fait connaître au grand public et qui a fait de lui vraiment un auteur populaire. Et puis, également un livre dont on a parlé, L'Accusé, dont on a dit sur le monde de la justice, sur le monde des prisons, qui est un roman magnifique. Alors, je ne sais pas combien j'en ai cité là. Peut-être que je citerai également pour les personnes férues d'histoire sa très belle biographie de Charette. Voilà, ceux qui sont allés voir le film sur Charette fait par le Puy du Fou il y a maintenant, je crois, 2 ou 3 ans, seront ravis de lire cette biographie. Et si je devais lire...
Vous soulignez à cet égard, d'ailleurs, que cette biographie de Charette avait été commandée par le président d'Antenne 2 à l'époque, Marcel Julien, qui avait pour projet de réaliser un film sur Charette. Et nous aurions eu un très beau film sur Charette avec les moyens de la télévision française, 45 ans avant la diffusion du film réalisé par le Puy du Fou il y a 2 ans.
Oui, alors effectivement, ce film, Marcel Julien avait proposé à Michel de Saint-Pierre, l'idée du livre est même venue de Marcel Julien, qui a dit à Michel Saint-Pierre, écris ce livre et ensuite nous l'adapterons à la télévision. Donc Michel Saint-Pierre a écrit cette biographie de Charette. Lorsque Marcel Julien a lu la biographie, il lui a dit, c'est ton meilleur livre. Et puis ensuite, Marcel Julien a quitté la présidence d'Antenne 2. Et ensuite, on a fait savoir, une fois que Marcel Julien n'était plus là, que le livre ne pourrait pas être adapté à la télévision, bien qu'il y ait eu un contrat qui avait été signé pour cette adaptation. Michel de Saint-Pierre a entamé un procès. Il avait à l'époque comme avocat maître Jean-Marc Varro. Et malheureusement, ce sont les aléas de la justice. Le procès n'a pas abouti et donc le livre n'a pas été adapté à la télévision. Et comme vous le soulignez, c'est assez dommage parce que dès ces années-là, les Français auraient pu découvrir l'épopée de Charette au moins sur le petit écran. Il a fallu attendre l'œuvre du Puy du Fou pour la découvrir sur le grand écran.
Marcel Julien avait même songé à Jean Pia pour jouer le rôle de Charette.
Exactement.
Ayant en tête la prestation de Jean Pia dans la fameuse série des Rois Maudits.
Exactement, exactement, c'est tout à fait ça.
Alors, quel était le passage que vous souhaitiez nous lire ?
Alors, c'est un passage donc, dans La Passion de l'abbé de Lens, où l'abbé de Lens, en 1978, il faut se rappeler à l'époque, la messe traditionnelle était dans les faits, purement et simplement interdite, elle était tolérée pour les prêtres âgés ou malades. Et l'abbé de Lens, ayant eu de très gros problèmes de santé, est autorisé à célébrer la messe traditionnelle, et il retourne dans la paroisse dont il était jeune vicaire dans les années 1960, il retrouve un des prêtres de l'époque, et le prêtre, qui est un petit peu surpris par ce jeune prêtre très traditionnel, ce prêtre qui est d'esprit très progressiste, lui propose de lui servir sa messe. Voilà. Et cette messe va agir sur ce prêtre où, effectivement, ce prêtre se dit « Mais moi, je n'ai jamais célébré la messe de cette manière. » Et il va se passer quelque chose chez lui lorsque l'abbé de Lens va célébrer sa messe. Et donc, il y a quelques très belles lignes écrites par Michel de Saint-Pierre. Je vais vous lire un court passage. « Tandis que le sacrifice lui-même était en vue, à mesure que la présence du Christ devenait plus évidente et plus lourde, la tension intérieure semblait figer les mots dans la bouche du célébrant. La prière latine, parmi le clair-obscur de l'Église, résonnait discrètement comme une incantation, comme l'appel de l'homme vers Dieu qui met un amour infini à la portée d'une simple main. Et la lente et sainte messe continue de se dérouler, baignée de mystère et de clarté, ainsi que le repas d'Emmaüs. Mais c'était en vérité la scène qui commençait, animée par le Fils de l'homme que les hommes avaient déjà condamné, par le porteur des péchés du monde, par celui qui pouvait déjà compter les épines d'une couronne et les clous d'une croix. »
Voilà. C'est très très beau, et cela illustre non seulement le chrétien qui était Michel de Saint-Pierre, mais cet esprit contemplatif. Cette foi était nourrie de fréquentes et nombreuses méditations pour pouvoir tracer de si belles lignes sur la messe et sur le sacerdoce.
Voilà, là, je vous ai lu un court passage, mais voilà, j'aurais pu continuer. Et effectivement, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre. Voilà, la description, la compréhension de ce qu'est la messe. Et malheureusement, peut-être que on a un petit peu oublié aujourd'hui ce qu'est véritablement la messe, ce qu'est le sacrifice de la messe. Et là, il y a vraiment, je vous ai lu un court passage, mais il y a des pages absolument magnifiques qu'il faut lire et relire voilà, pour les jeunes et les moins jeunes, car ce sont vraiment de très très belles pages.
Et l'on mesure à la lecture de ces lignes et de ces pages à quel point Michel de Saint-Pierre a dû profondément souffrir du spectacle donné par l'Église et par nombre d'hommes d'Église au cours des années 60, 70 et 80, souffrir de cette infidélité à ce qu'ils étaient.
Oui, alors effectivement, Michel de Saint-Pierre, il y a un de ses livres qui s'appelle « Ces prêtres qui souffrent ». Donc effectivement, Michel de Saint-Pierre décrivait la souffrance de ces prêtres qui, dans les années 1970, était persécuté, mais il n'est pas contestable que cette souffrance des prêtres était également la sienne.
Mmh. Et en parallèle, on peut rappeler les biographies de saints qu'il a écrites. Vous avez évoqué tout à l'heure Bernadette et Lourdes, dont il avait offert un exemplaire au pape Pie XII à l'occasion d'une audience relativement longue d'ailleurs, dont il avait bénéficié à la fin du pontificat de Pie XII, avant d'en remettre un exemplaire à son successeur Jean-Paul II. Et puis, on peut également rappeler la biographie de M. Vincent, auquel Pierre Freinet aussi avait donné un visage dans le film qui porte ce titre, réalisé à la fin des années 40. La vie prodigieuse du curé d'Ars, là encore... est un très bel ouvrage consacré au sacerdoce catholique au travers de celui qui a été érigé par l'Église en modèle pour les prêtres du monde entier.
Voilà. Alors ça, effectivement, ce sont ces trois biographies, je dirais, religieuses. Et effectivement, Bernadette est lourde. Surtout, je crois que c'est une des premières biographies de Sainte Bernadette. Donc, c'est un livre, effectivement, absolument passionnant et très bien écrit. Et puis, au-delà des biographies religieuses, il y a, comme on l'a dit, Monsieur de Charette, Chevalier du Roi, qui était donc paru en 1977. Et puis, en deux tomes, Le drame des Romanov. Qui était également un livre magnifique voilà, qui retrace tout, comme son titre l'indique, le drame de cette famille.
Bien. Mais écoutez, je vous remercie Thierry Bouclier pour ce bel entretien. Je rappelle aux auditeurs que le samedi 20 juin, c'est-à-dire compte tenu de la date de diffusion de cette émission, demain après-midi, vous serez à la librairie du Ken, entre 14h et 19h, pour signer cet ouvrage et peut-être quelques autres de vos ouvrages. Et également, vous aurez peut-être d'autres titres avec vous.
Oui, il y aura la biographie de Roger Nigné, là, que j'ai fait paraître il y a quelques mois dans la collection « Qui suis-je ?» aux éditions LIF qui ont pris la succession des éditions Pardès. Je pense qu'il y aura également la biographie que j'ai consacrée à Pierre Drieu-La Rochelle. J'avais également consacré une biographie à l'abbé Coiffé, l'abbé Denis Coiffé, que j'avais publié.
Qui s'est éteint il y a quelques années.
Exactement, oui, qui est décédé en 2015. J'avais publié cette biographie en 2016. Et puis, voilà, je sais qu'elle fait quelques romans policiers. Donc, je pense que ces romans policiers seront également ici demain chez Duquel.
Très bien. Eh bien, un grand merci, Thierry Bouclier.
Merci
et puis,
vous.
Il me reste, chers auditeurs, à vous souhaiter une bonne fin de semaine et un bon dimanche.
Vous venez d'entendre le libre journal de Philippe Pichot-Bravard, émission préenregistrée le 15 juin 2026 et diffusée pour la première fois vendredi 19 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.